un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des bateaux ou des monstres, selon les points de vue. Le dernier à sortir de l'eau en janvier prochain sera le plus grand du monde. Où vous passerez, explique la présentation, les meilleures vacances en famille au monde et les meilleurs moments de votre vie, tout simplement. Ce bateau de croisière qui a 20 étages peut accueillir 8000 passagers et contient un parc d'attractions avec 7 piscines dont une à débordement suspendu, 6 toboggans multicolores et plusieurs bains à remous. Il y a aussi des boîtes de nuit thématiques avec des DJ bien sûr, 40 restaurants et bars, un kiosque façon Central Park, un bar à champagne, à sushi, à saké, un aquadome, une immense patinoire et un terrain de volleyball. D'autres bateaux dans le même genre proposent évidemment un mini-golf, un mur d'escalade offrant une vue exceptionnelle, des autotamponneuses et des escape games. Le plus étonnant, et certains diront inquiétant, ce sont les prix qui sont souvent très abordables, transformant ainsi la croisière en loisir populaire. Mais qui s'en plaindrait de vouloir oublier les fracas du monde sur un toboggan géant et de s'entraîner au surf sur une vague artificielle quand la guerre est partout? Sauf que pour les habitants des ports où ces dizaines de géants accostent tout au long de l'année, comme à Marseille par exemple, c'est une toute autre affaire, beaucoup moins divertissante hélas, comme on l'entend tout de suite au micro de Clément Baudet.
Donc je m'appelle Michel Rosier, j'ai 73 ans, j'habite le quartier de Mauropiane, qui est un quartier qui est donc au-dessus donc du port, au-dessus de la mer, entre Saint-André et l'Estac. Là, je suis sur ma terrasse et donc ce que je vois, c'est des bateaux de croisière qui obstruent complètement la vue sur Marseille, le phareau Marseille bien entendu, et sur la baie de Marseille. On voyait de temps en temps un bateau, tout ça, bon, on se disait, oui, effectivement. Mais là, maintenant, c'est un défilé, hein. C'est un défilé. Ben, ça fait à peu près 10-12 ans, à peu près, parce qu'on en avait très peu, hein. Marseille, c'était pas attractif, en fait, hein. On a été donc en 2013 élu capitale de la culture européenne. Et en fait, là, il y a eu des choses qui se sont passées, bien évidemment. Hein, on le sait sur le Mucem, sur la Villa Méditerranée. Marseille a vraiment changé de visage. Donc, ça a été une attractivité qu'on ne connaissait pas avant. Et l'attractivité, ça a fait que ça a développé les croisières. Donc, c'est monté en puissance. Et là, on va arriver, je pense, à 2 millions, d'après les infos qu'on a du port, 2 millions de passagers. Sous ma fenêtre, sous mon nez, voilà. Moi, je travaillais, donc j'étais dans une grande société française et j'étais responsable d'un CE. Et donc, on avait systématiquement des invitations des armateurs, des commerciaux, bien entendu, qui nous invitaient à venir passer une demi-journée à bord. Donc, j'ai eu l'occasion de monter à bord de ces bateaux. Ce sont des villes flottantes. On propose des activités, c'est juste incroyable. Il y en a un qui a une piste de kart, l'autre qui a un paysage de neige, d'autres, enfin c'est la vague de surf, enfin bref, 21 restaurants, c'est complètement surréaliste. En pleine urgence climatique, moi ça me désole un peu. J'en ai vu un. J'ai emprunté l'escalier parce qu'il était un peu conçu comme un opéra. Et c'était un escalier hélicoïdal qui devait faire à peu près 20 ou 30 mètres, je sais plus, qui était fait en cristaux Swarovski. On avait l'impression de marcher sur des marches de diamants. On a du mal à penser que tout ça, ça puisse être sur un bateau. Avant, c'était réservé à une certaine caste hein, de gens un peu friqués. Là, on n'est plus dans ce schéma-là. Ce sont des gens, des familles, des jeunes avec des enfants. L'autre jour, j'ai reçu un truc, là, une offre. 8 jours, 7 nuits, 348 euros, tout compris. Ça coûte moins cher, des fois, d'être sur un bateau l'hiver, par rapport au chauffage et tout ça, que d'être chez soi. Mais c'est une pollution qui est très importante. Ils arrivent le matin aux alentours de 7 heures, entre 7 et 8 généralement. Et il arrive que quelquefois, on en ait 6 ou 7. Et on sait que les moteurs ne s'arrêtent jamais. Ils ont besoin d'électricité, de courant sans arrêt. Donc ça n'est jamais coupé, jamais. Et ça fume toute la journée, bien évidemment, il n'y a rien qui est arrêté. Ce que je vois depuis ma fenêtre, c'est des cheminées de bateaux, évidemment, qui sont stationnées sur le terminal croisière, et des panaches sans arrêt, non-stop. Ça ressemble à des panaches blancs, des panaches plutôt gris aussi pour certains bateaux. Voilà, ça fume toute la journée, hein, le temps de l'escale. Et le soir, quand ils redémarrent, alors là, ils mettent certainement un grand coup d'accélérateur, je pense. Et on a encore bien plus le soir au démarrage. Moi, ces panaches, je les vis très mal. Parce que quelquefois, donc, c'est tellement puant, c'est tellement fort que je suis obligée de m'enfermer ou de partir. Ça m'arrive de partir. Une odeur de pot d'échappement, hein, c'est une odeur de combustion. C'est assez particulier comme odeur. Alors, quand il y a du Mistral, la pollution se déplace. Ça va sur Marseille Sud. Mais les gens de Marseille Sud, ils savent pas que c'est les bateaux. Ils voient pas. Donc, ils pensent que c'est la pollution routière, que c'est voilà. J'ai des dépôts de suie sur mes rebords de fenêtres et sur le tour de la piscine. Il y a une bande de noir, on dirait que c'est peint à la main. Parce qu'il y a une suie très noire, très grasse. Je dis que ce que je trouve là, ça doit être dans mon corps, dans mes poumons. Et je me dis que je suis en danger. Je suis en danger. Ce que je crains, c'est qu'un jour on m'annonce que j'ai un cancer. Moi, j'ai une maladie cardiovasculaire et je pense que les particules fines en sont pour une grande partie responsables. On ne peut pas le prouver, évidemment. Il n'y a pas eu d'études épidémiologiques lancées. Mais ça fait 6-7 ans sur le quartier, donc tous les gens que je connais qui ont eu malheureusement des cancers des voies respiratoires, il y en a au moins 9 ou 10. 9 ou 10. Ça a fleuri sur le plateau de Mauropiane, ça a fleuri, ça je peux le dire. Il y en a deux qui en sont sortis, mais les autres sont morts. Moi, je pense que c'est lié à la pollution. Parce que ce sont des gens, c'était des non-fumeurs, des sportifs, des gens qui avaient une vie saine. J'ai un peu du mal à... Voilà. Et que des cancers des voies respiratoires. Que des cancers des voies respiratoires. Donc c'est quand même assez inquiétant. Même très inquiétant. Lorsqu'on en parle avec les voisins, ils pensent comme moi, hein. Ils ont peur. Moi, j'ai déjà envisagé de déménager, évidemment, bien sûr. Après, ça va être un déchirement, hein, de quitter ma maison familiale, mais je sais qu'un jour, je devrais partir, parce que, si ça s'arrange pas mieux, si ça va pas plus vite, parce que le port nous promène... Hein. Il n'y a aucun capteur sur le port et quand on a demandé donc visiblement en mettre un, ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été visiblement accepté, je ne sais pas. Là, j'ai pas trop compris. Parce que ça serait bien de mettre un capteur au pied du bateau quand même. Pour mesurer cette pollution qui est très très grande, qui est très importante, voilà. C'est intéressant quand même d'avoir des données pour pouvoir agir. Alors si on ne veut pas avoir de données, c'est qu'on ne veut pas agir. Je fais partie d'une association qui s'appelle Cap au Nord, qui est une association de défense de cadres de vie dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille. Et donc, on s'est intéressé à ce problème de pollution. Du fait qu'il n'y avait pas de données donc, des institutions, on a décidé, nous, sur le secteur, d'acheter des capteurs. Voilà, l'association a acheté des capteurs. J'ai installé un capteur sur ma terrasse, un capteur citoyen, on a appelé ça comme ça, pour mesurer, parce qu'on n'avait aucune donnée par rapport à la pollution que l'on subissait. Et on voit que ce sont des pollutions extrêmement importantes. C'est effrayant. On est très exposé, en fait. Très exposé. Comme rien ne bougeait, on a décidé en mars 2023 de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Et préjudice écologique. Donc, on attend, on est confiant quand même. Et on espère qu'il y ait une décision qui sera prise en faveur des habitants. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse une étude épidémiologique et qu'on puisse déterminer et on puisse acter tout ce que nous ressentons. Donc, on a eu vent que le maire de Marseille donc allait la lancer, cette étude. Donc, j'espère qu'elle se fera vite, pas comme à Fos où ça a mis 10 ans. J'espère. Cette pollution, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est en pleine urgence climatique, il faut que ça cesse. Surtout pour ce genre d'activité. Parce que là, nous, on prend ça en pleine figure. Hein. Et pas que, hein, puisque la pollution se déplace. Hein. C'est un phénomène mondial. Hein. C'est pas le problème de Madame Rosier, de Marseille. Voilà. C'est à l'échelle mondiale. On doit cesser.
Guillaume Félizin, je suis ingénieur en automatisme et informatique. Je suis originaire de la vallée de Chamonix, mais j'habite depuis 30 ans à Marseille. J'habite à l'Estac, à proximité de l'entrée du port de Marseille. C'est très difficile d'habiter devant l'entrée du port de Marseille et de ne pas être en colère contre les bateaux de croisière. Quand un samedi, on en a 6. Enfin, personnellement, c'est vrai que c'est de la colère. Chamonix, c'est l'une des vallées la plus polluée de France, parce que le Mont Blanc vient bloquer les émissions polluantes. Il y a pas mal de sources, il y a des usines au pied de la vallée. Donc je vis entre deux endroits très pollués, exactement. Les associations environnementales dans la vallée de Chamonix ont posé des capteurs qui servent à mesurer les particules fines. Et je me suis dit qu'on pouvait faire pareil à Marseille. Aujourd'hui, on n'a pas de données. Il n'y a aucun capteur qui mesure ce que respire une population qui est estimée à peu près à 90 000 habitants autour du 15 et 16e arrondissement. Donc, on a installé 11 capteurs dans un périmètre d'un kilomètre autour du port. Un capteur comme celui-ci coûte 350 euros. C'est californien et c'est monitoré par les Américains. Ces capteurs mesurent des particules PM, ça veut dire particules matter, 2,5 micromètres. Donc c'est à peu près 4 fois plus petit qu'un cheveu. Et comme elles sont petites, elles ont une incidence très importante sur notre santé. On a mesuré des moyennes. On a une moyenne annuelle de PM2.5 de 16 microgrammes par an. La limite recommandée par l'OMS, c'est 5. Donc on respire 3 fois plus de PM2.5 que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Quand on a vu ces premiers résultats, on n'a pas été étonné. Parce que on voit bien les niveaux de pollution qui sont dans nos jardins, sur nos tables, sur nos chaises. Quand on voit un bateau rentrer, on voit bien les fumées. On voit bien aussi autour de nous les gens qui tombent malades. Depuis que je sais ça, je fais attention à pas courir au moment où c'est le plus pollué. Je fais plus attention à ma santé. On fait attention. On sait ce qu'on risque. Ça me fait prendre conscience que il y a d'autres quartiers de Marseille qui ont une pollution aussi forte que la nôtre. On sait que le transport routier est responsable de beaucoup de pollution, mais c'est difficile de passer d'une voiture. Est-ce que c'est difficile de se passer d'un bateau de croisière? Personnellement, je pense qu'on pourrait en passer. En fait, on est des lanceurs d'alerte en disant « Regardez, on a ce niveau de pollution, nous sommes inquiets et on souhaiterait que des mesures soient prises. »
Damien Piga, je suis directeur des relations extérieures et de l'innovation à Atmosud. on est l'observatoire de référence sur la qualité de l'air et le climat. Donc on a pour mission de pouvoir surveiller justement l'état de la qualité de l'air pour s'assurer que l'air que respirent les personnes de la région ne nuise pas à leur santé. Aujourd'hui, à Marseille, l'activité maritime a effectivement un impact qui n'est pas négligeable sur la qualité de l'air. Alors dans l'épanage des navires, on va retrouver un grand nombre de composés. On va retrouver des particules fines et notamment des particules ultra fines. Ce sont des particules qui vont être invisibles à l'œil nu. Elles ont la particularité de ne pas être arrêtées par nos voies respiratoires et elles vont rentrer très en profondeur dans notre système respiratoire. Et comme elles sont très fines, elles vont pouvoir également franchir la barrière sanguine et ensuite se diffuser dans l'ensemble de notre corps et avoir un impact sur l'ensemble des organes de notre corps. Donc vraiment, ces particules les plus fines, ce sont les plus dangereuses pour la santé humaine. Quand on regarde à Marseille, donc la quantité de polluants qui est émise, quand on regarde donc les oxydes d'azote, donc qui est un polluant gazeux qui est réglementé et pour lequel on a encore des dépassements de valeurs réglementaires sur la ville de Marseille, le maritime représente jusqu'à 50% des émissions justement de ce polluant sur l'ensemble de l'année. Donc c'est vraiment la principale source d'émissions sur Marseille. Et ensuite on va retrouver le transport routier, donc dans une moindre mesure, dans une trentaine de pourcents. Dans le port de Marseille, avant la crise sanitaire, on avait un tiers des émissions du port qui étaient associées justement à l'activité croisière. Globalement, la tendance, c'est qu'effectivement, c'est une des activités principales du port de Marseille, avec des navires qui sont quand même très imposants. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la taille du navire, on a beaucoup de personnes à l'intérieur, on a beaucoup d'équipements. Donc, on va avoir un besoin important en énergie et donc, associé à ça, forcément des émissions qui sont importantes.
Il y a un collectif de citoyens dans le nord de Marseille qui a décidé de s'équiper de ses propres capteurs. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de ces résultats ?
Oui, il faut savoir que l'OMS recommande de ne pas dépasser 5 microgrammes en moyenne annuelle pour les particules fines. Quand on regarde à l'échelle de la région, vraiment l'ensemble de la région, on a 100% de notre territoire qui dépasse cette valeur. C'est-à-dire que même dans les Alpes, même dans les endroits finalement les plus préservés de notre région, on a des concentrations de particules fines qui dépassent justement cette recommandation de l'OMS.
Il faut s'inquiéter de ces données-là ou pas vraiment ? Vous me dites que c'est le cas dans toute la région ?
Alors, c'est pas parce que c'est commun que effectivement ça veut dire que c'est sain pour la santé. Les recommandations de l'OMS sont des recommandations pour garantir à chacun de pouvoir respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est au-dessus de ces seuils-là, ça veut dire qu'on a un risque pour notre santé. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui, il y a très peu de réglementations dans le monde du maritime. La seule réglementation qui existe aujourd'hui, elle concerne les émissions d'oxyde de soufre des navires. Donc c'est vrai que c'est assez léger comme réglementation. Et ensuite, toutes les autres initiatives sont des initiatives qui sont soit portées par les autorités portuaires, par les ports, ou soit par les armateurs. Donc ce qui est très important, c'est vrai que dans toutes les communications qu'on peut avoir, on va lire qu'on a des systèmes de dépollution qui équipent aujourd'hui les navires. Ce sont ce qu'on appelle des scrubbers, en fait des scrubbers, ça veut dire lavage en français. Ces systèmes-là, ils sont efficaces effectivement pour réduire le dioxyde de soufre, mais par contre ils sont très peu efficaces pour réduire les concentrations en particules fines. Tout ça, effectivement, il y a un coût. Il y a un coût d'investissement, il y a un coût de fonctionnement, mais on sait aussi que finalement la qualité de l'air, dans ses conséquences, a aussi un coût qui est porté par la société. Et donc, dans le rapport entre effectivement le coût que ça va coûter de pouvoir justement adapter ses équipements pour les navires versus le coût qu'il y a pour la santé, on sait qu'on sera gagnant au final.
Guillaume, j'ai 64 ans, j'ai fait une carrière dans la marine marchande à tous les postes d'officier. J'ai commencé à naviguer au long cours à la CGM. Et ensuite, pour avoir une vie de famille à peu près normale, j'ai navigué chez SNCM, qui s'appelle maintenant Corsica Linea. Donc ce sont des navires qui font le transport de passagers, de fret et de véhicules avec la Corse et l'Afrique du Nord. Donc ce sont des car ferries et j'ai une assez bonne connaissance de la machine des navires et comment ça se passe à bord. À partir de 2011, j'ai été commandant de car ferry et on m'avait affecté au car ferry qui faisait la ligne entre Toulon et la Corse et un petit peu le Maghreb, mais très occasionnellement. Donc on arrivait les premiers le matin, c'est-à-dire qu'à 6h le matin, on était en plein centre-ville en train de manœuvrer pour accoster le navire et en faisant de la fumée, en faisant du bruit. Et toute la journée, ça fume et toute la journée, selon les vents, les gaz d'échappement s'en vont dans un quartier ou dans un autre ou dans tous les quartiers. Je suis parti à la retraite, j'ai arrêté de naviguer en 2015. Et puis, sans avoir de but précis, je me suis rendu compte tout à fait par hasard en lisant le journal qu'il y avait beaucoup de gens qui se préoccupaient de la pollution de l'air et notamment de la pollution de l'air générée par les navires. Et donc, j'ai proposé mes connaissances et de fil en aiguille, j'ai été contacté par des associations, des collectifs qui m'ont demandé de venir leur expliquer comment ça se passait sur les navires. Tout ça, c'est des connaissances que j'avais et je pensais pas un jour avoir besoin de les partager avec des gens qui étaient tout à fait néophytes, qui savent pas du tout ce que c'est que du fuel lourd, qu'un moteur de navire. On n'imagine pas comme c'est énorme, on n'imagine pas combien ça consomme. Les navires, on les voit quand ils sont au port, et après, dès qu'ils ont quitté le port, on les voit plus, on se dit, bah, c'est bon, on oublie, quoi. Quand tu vois un paquebot qui fume dans le port de Marseille, tu le vois appareiller, tu vois que ça fume encore plus que quand il est à quai, et puis après, une fois qu'il est parti au large, pour la majorité des gens, c'est bon, il va fumer plus loin, et c'est pas grave. Je connaissais bien le port de Marseille, puisque je l'ai fréquenté quand même pendant quelques dizaines d'années, avec les ferries de la SNCM, essentiellement. Et suite au Covid, les Marseillais se sont retrouvés à héberger des dizaines de paquebots qui fumaient en permanence, qui restaient sur leur groupe électrogène toute la journée, de jour, de nuit. Et il faut se rappeler que les navires de croisière, s'ils sont de plus en plus gros et si leur capacité est de plus en plus importante au niveau passager, c'est que les armateurs gagnent beaucoup d'argent avec, au détriment de la santé des riverains quand ils sont à quai dans le port de Marseille. Les navires sont souvent équipés de scrubbers, c'est-à-dire qu'on lave les gaz d'échappement avec de l'eau de mer que l'on puise dans la mer. On pulvérise cette eau de mer dans les conduits d'échappement et tout ça est rejeté dans la mer. Et c'est une démarche intellectuelle, moi, qui me choque énormément. C'est un transfert de pollution de l'air dans la mer, directement. Ce qui est tout à fait inadmissible de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de gens. J'ai rencontré en décembre 2022 des militants écologistes marseillais qui étaient préoccupés par la présence des paquebots à quai à Marseille et par l'incohérence de ces navires avec la préservation du vivant, et qui ont créé un collectif qui s'appelle Stop Croisière et auquel j'ai adhéré tout de suite. Ensuite, on a envisagé une action. Alors, le Wonder of the Seas, c'est un monstre de 370 mètres de long. C'est un des plus gros paquebots en capacité passager. Il y a plus de 2000 membres d'équipage. Et c'est un navire qui est extrêmement énergivore à quai. Il y a une patinoire, il y a plein de piscines, il y a je sais pas combien de bars. Donc, on a voulu bloquer l'entrée du port de Marseille, le jour où le Wonder of the Seas se présentait pour entrer. Il y avait un deuxième paquebot derrière lui aussi. Le jour du blocage, là, le 14 juin 2022, je me suis levé à 3h du matin. À 4h du matin, j'étais à l'Estac à Marseille. On a mis le Zodiac à l'eau. Il y avait d'autres militants qui devaient nous rejoindre en kayak. Ils étaient environ une vingtaine de kayaks. Ils avaient dormi dans un hangar pour surtout que ça reste bien secret. Donc les kayaks ont appareillé en même temps que nous vers 5h30, 6h du matin, je pense. Il y avait une flopée de kayakistes avec des banderoles Stop Croisière, Extinction Rébellion et les croisières criminelles. Et donc, on a interpellé le Wonder of the Seas pour lui dire qu'aujourd'hui, il pouvait pas rentrer dans le port et qu'il devait faire demi-tour. Ils ont fait demi-tour parce qu'ils nous ont envoyé la gendarmerie maritime pour nous évacuer. Ils ont mis du temps, mais ils sont arrivés comme des cow-boys à faire des cercles avec leurs gros zodiacs et leurs grosses vedettes autour des kayaks pour les faire chavirer. Ils n'ont pas été très cool. Mais heureusement, Top Croisière est extrêmement bien organisé. Il y a des avocats bénévoles qui attendaient les activistes quand ils ont été embarqués par les gendarmes maritimes et ils ont tout de suite été libérés. Donc pendant 2h30, la passe a été bloquée. On a bloqué le Wonder of the Seas, on a bloqué le MSC qui était derrière, un autre paquebot. En ce qui me concerne, je n'avais aucun stress. Moi, je suis à la retraite, j'ai rien à perdre. J'ai pas d'obligation professionnelle. Ma fille rêvait de venir me chercher en garde à vue, mais ça s'est pas fait, puisque on n'avait pas du tout été inquiétés. Et donc, je suis, moi, en tant qu'ex-marin retraité et un des acteurs de la pollution maritime, il faut bien le dire, j'étais extrêmement heureux de voir autant de gens jeunes. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus motivés que ce que j'étais moi, et je leur en sais gré. C'est peut-être grâce à eux qu'on va éviter le pire. Cette action du 14 juin, elle a eu le grand mérite de mettre en lumière et de faire filer un coup de projecteur sur ce problème, premièrement des croisières, et puis deuxièmement du transport maritime en général. Suite à ça, quelques semaines après, le maire de Marseille, monsieur Benoît Payan, a publié une pétition qui a recueilli, je sais plus combien, 50 000 signatures, demandant à ce qu'on limite les croisières et le nombre d'escales dans le port de Marseille. Il faut juste dire que, bien que la pétition ait eu un grand succès, la mairie n'a quasiment aucun pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe dans le grand port maritime de Marseille. Le GPMM dépend directement du ministère des Transports. C'est un petit état dans la ville. Et la mairie n'a quasiment pas son mot à dire sur les décisions qui peuvent impacter la population et la santé des riverains.
C'était « Quand les bateaux de croisière débarquent à Marseille », un reportage de Clément Baudet réalisé par Somaya Dabèche. Merci à Michel Rosier, à Guillaume F, à Guillaume P, à Damien Piga et à David Courbel. Attaché de production des Pieds sur Terre, ses os est coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. Far from mine.